Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire, comme chaque semaine, le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Et puis, le débat ce samedi, liberté, égalité, identité, identité au pluriel. C'est la couverture du dernier numéro de Philosophie Magazine. Comment penser, comment reconnaître, comment faire droit aux différences dans une république universaliste où le citoyen n'a pas de sexe, pas de genre, pas de couleur de peau ni de religion. Il faut se souvenir d'un court texte d'intervention qu'avait publié la journaliste et écrivaine Tania de Montaigne. Le titre était « L'assignation, l'assignation à identité », comme on parle d'assignation à résidence. Le sous-titre de ce court essai « Les Noirs n'existent pas ». Noirs avec une majuscule et c'est loin d'être anecdotique, c'est même capital. Tania de Montaigne viendra nous expliquer pourquoi dans une vingtaine de minutes et comment penser la question sociale aussi dans ce cadre-là. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. J'adore vous appeler monsieur le directeur, madame la directrice. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver.
Très.
Oh bah oui.
Toujours. Le moral est bon apparemment. Ça fait du bien d'entendre ces rires, mais pour commencer, on ne rigole pas, on ne rigole vraiment pas avec ça.
L'important, c'est mental. Qu'il n'y ait pas d'idéologie dans un sens ou dans l'autre, dans l'assiette de nos enfants. Et que la question, ça soit toujours la santé et le choix. Moi, je le dis, je suis évidemment sensible à la question des repas végétariens. Mmh. Et vous savez, on a voté des textes de loi précisément pour qu'il y ait une alternative de menus végétariens dans les établissements scolaires, pour augmenter la part du bio dans les cantines scolaires. Ça sera 20% minimum d'ici au 1er janvier 2022. Mmh. Et donc, il faut toujours laisser le choix.
C'était Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement au micro de Nicolas Demorand, dont vous aurez reconnu les mythiques. C'était vendredi hier sur France Inter. Gabriel Attal qui tentait de calmer la cacophonie qu'on a pu observer au sein du gouvernement avec plusieurs ministres qui se sont déchirés après la proposition du maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, Grégory Doucet, d'instaurer des menus uniques sans viande à la cantine. Natacha Polony, on sait votre passion à la fois pour l'école, pour la bonne bouffe et pour les questions qui, de près ou de loin, ont trait aux enfants. Alors, qu'avez-vous pensé de ce débat qui a fait irruption sans qu'on s'y attende dans l'espace public ?
J'y ajouterai un intérêt pour les questions environnementales et pour la défense d'une agriculture paysanne. Et ça a son importance dans ce débat.
Voilà qui est dit.
Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de toutes parts dans ce débat et que ça le fausse terriblement et ça le transforme en une polémique apparemment stérile, alors que c'est un enjeu absolument passionnant et essentiel. La question est la suivante. Grégory Doucet, maire de Lyon, prend cette décision. Gérard Collomb l'avait déjà prise lors du premier confinement. Donc, on peut dire que c'est une simple mesure technique qui permet de fluidifier le moment de la cantine à cause des règles sanitaires.
Oui.
Certes. Sauf qu'en fait, si on commence à dire ça, alors il faut en conclure que toutes les autres cantines en France fonctionnent de façon aberrante et en mettant en danger les enfants. Il semblerait. Ou alors, c'est qu'il y a un problème dans la façon dont on prend le débat. Donc, je pense que tout cela n'est pas dénué d'arrière-pensée. Voilà des années que, au sein d'Europe Écologie Les Verts, on explique que la consommation de viande, en général, poserait problème sans jamais distinguer et sans jamais dire de quelle viande on parle. Or, je pense que c'est là-dessus qu'il serait nécessaire de replacer le débat. C'est-à-dire que l'idée de faire des repas sans viande, l'idée de dire que nous mangeons globalement trop de viande, notamment en France, me semble tout à fait juste. Et d'ailleurs, il est tout à fait raisonnable d'avoir instauré au moins une fois par semaine un repas sans viande. C'était le projet de la loi Egalim. La loi sur l'environnement, sur le climat, va amplifier tout cela. Tant mieux. En revanche, dire qu'on ne va plus manger de viande du tout, disons que ça fait entrer différents problèmes. D'abord, il y a le fait que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne veulent pas manger la viande qui est servie à la cantine.
Certains peut pas les en blâmer. Hein.
Non, mais c'est pas pour une question de goût. Certains, c'est pour une question de choix, ils ne veulent pas manger de viande. Et il y en a d'autres, c'est parce que ce n'est pas une viande qui relève de pratiques d'abattage confessionnel. Et du coup, quand il doit y avoir un menu unique, c'est plus simple de dire « Oh bah du coup, on fait pas de viande du tout ». Comme ouais. Ça, on ne s'embête pas. Ça, c'est le premier point. Or, ça pose un problème d'égalité. Et surtout, je crois que la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas manger moins de viande, mais en s'approvisionnant correctement? On ne peut pas penser la question des cantines et la question des marchés publics globalement si on ne pense pas le fait qu'on ferait mieux de préserver des filières de viande bovine, notamment avec des vaches qui mangent de l'herbe, ce qui est de nos jours, c'est devenu une rareté, oui. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on importe en effet du soja OGM pour faire manger des cochonneries à certaines bêtes, c'est ça pollue. En revanche, une viande qui a brouté de l'herbe est beaucoup moins polluante, et je pense que c'est vers ça que les pouvoirs publics devraient se tourner. Il y a des villes qui le font, qui travaillent leurs approvisionnements, qui diminue la quantité de viande, mais de bonne qualité. Je pense que c'est le devoir des pouvoirs publics de faire manger des produits de bonne qualité aux enfants, plutôt que d'avoir des arrière-pensées.
Gilles Finkelstein.
Quand on regarde cette polémique de près, elle est assez édifiante. C'est un signe, je dirais un signe supplémentaire de la pathologie de notre démocratie. On voit à quel point on peut monter très vite et très haut dans la polémique. Bruno Retailleau a quand même parlé d'une tentation totalitaire. On voit comment on peut partir très loin de la vérité des faits, puisque Natacha l'a bien dit, entre ce que proposait réellement le maire de Lyon et ce sur quoi a porté la polémique, il y avait un monde. Et c'est un signe, là aussi un signe supplémentaire, des tensions qui animent la majorité. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu plusieurs ministres à ce point se vilipender sur les réseaux sociaux et par médias interposés.
Oui.
Mais quand on regarde, non plus de près, mais quand on regarde de loin, de plus loin cette polémique ou ce sujet, je crois que c'est plus passionnant encore. Et il ne s'agit pas d'idéologie, comme l'a dit Gabriel Attal, mais je crois que cet objet, la cantine scolaire, est devenu un objet extraordinairement politique qu'il est intéressant de regarder. C'est un enjeu environnemental, Natacha Polony l'a évoqué, de savoir qu'est-ce que l'on consomme, et notamment sur la viande, comment on produit, d'où viennent les produits. C'est un enjeu sanitaire sur la qualité de l'alimentation, c'est un enjeu culturel sur l'apprentissage du goût, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un enjeu social pour savoir quel est le coût d'accès à la cantine, parce que contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce sont plutôt les familles modestes qui vont moins à la cantine que les familles plus favorisées. Donc il y a tout ça qui est en jeu, la législation, Natacha Polony l'a évoqué, a évolué, mais surtout ce que l'on ne mesure pas, c'est de voir à quel point concrètement, ville par ville, les choses bougent de manière absolument considérable. Vous prenez, pour ne vraiment illustrer avec un ou deux exemples, ce qui se passe à Bordeaux, avec là aussi un maire écologiste. Il y a un travail en cours pour éliminer le plastique de la cantine. Vous regardez ce qui se passe à Dijon, maire socialiste, où la quantité de bio est passée, ou va passer en l'espace de quelques années, de 10% à 50%, avec un objectif d'autosuffisance alimentaire locale. Et vous regardez, c'est un des exemples que je trouve les plus intéressants, ce qui se passe à Montpellier, où un jeune maire socialiste vient d'être élu. Non seulement il y a un repas végétarien qui est proposé en plus chaque jour et qui est le menu unique une fois par semaine. Mmh. Plus que ça, il y a une cuisine, à la place d'une cuisine centrale dans laquelle tous les repas de la ville sont faits, vous avez plein de petites unités qui sont faites auprès des zones maraîchères et vous avez des tarifs sociaux, un tarif à 0,50 euros pour les familles monoparentales qui sont dans les situations les plus difficiles. Donc, je crois que c'est un vrai objet politique et que c'est une grille de lecture très intéressante pour voir ce que font les uns et les autres.
Le ministre Julien de Normandie a parlé de quelque chose d'aberrant d'un point de vue nutritionnel et une honte d'un point de vue social. Est-ce qu'il a raison, Natacha ?
Alors, il a raison sur un point, c'est que on a une filière d'éleveurs qui est extrêmement fragilisée aujourd'hui et que la poignarder ne me semble pas la meilleure manière de préserver l'environnement en France, dans la mesure où l'élevage, la paysannerie fait partie, ce sont les gens qui aujourd'hui entretiennent le territoire, et je pense qu'il faut au contraire les aider. La question, donc, c'est de savoir, Gilles a tout à fait raison, il y a des choses absolument novatrices qui sont faites. Je citerai Mouan Sartou, qui est exemplaire, parce que c'est l'endroit d'ailleurs où il y a le moins de gâchis, justement parce qu'on a réappris à manger, en faisant la cuisine sur place. Parce que, rappelons-le rapidement, il y a trois grandes sociétés qui fournissent la restauration collective. Et le livre noir des cantines scolaires qui avait été publié en 2018 montrait à quel point ils ne respectaient absolument pas les cahiers des charges, notamment en matière de capacité à fournir des produits locaux. C'est-à-dire que quand c'était pas local, parce que soi-disant ils n'avaient pas eu les approvisionnements, on oubliait de le dire. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Donc je pense que plus de contrôle sur les approvisionnements, un travail sur les marchés publics pour dire, pour obliger à se fournir localement et de qualité. Par exemple, la ville de Rouen fait 30% de bio, 30% de produits locaux, en vérifiant que c'est, que, en bannissant les produits industrielle, l'agriculture industrielle, ça me semble une possibilité. C'est tout cela qu'il va falloir étudier parce que c'est un levier d'action pour le climat, pour en effet l'apprentissage au goût qui est essentiel pour permettre de lutter ensuite contre la malbouffe. Donc c'est social, c'est culturel, c'est environnemental, il y a beaucoup de choses à faire.
Et une autre cantine est possible ? Un mot pour conclure, Gilles.
Oui, juste un mot sur est-ce que c'est antisocial ? Ce qui est le plus antisocial, c'est le dernier chiffre que j'ai, je ne sais pas si les choses ont été actualisées depuis, mais les deux tiers des communes n'ont pas de tarification sociale. C'est-à-dire que, quel que soit le revenu des parents, c'est le même prix pour tous. Ça, c'est ce qu'il y a de plus antisocial.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée.
Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes.
Alors, si oui, Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes.
Nous acceptons.
McFly, Carlito et le président de la République réunis pour une bonne cause, en l'occurrence un défi pour mettre en ligne un clip qui incite à appliquer les gestes barrières. Et il aura fallu 3 jours seulement pour que le clip mis en ligne sur YouTube par McFly et Carlito dépasse les 10 millions de vues. Et ils ont donc obtenu qu'Emmanuel Macron participe bientôt à un concours d'anecdotes dans une vidéo qui sera tournée à l'Élysée. Gilles, très sincèrement, à quoi ça sert ?
Écoutez, je vois votre
perplexité.
Perplexité, voire une petite pointe d'ironie.
Non, pas du
J'ai
tout.
J'ai lu un flot de critiques, c'est une désacralisation de la fonction présidentielle, une gadgetisation de la politique, une infantilisation des jeunes. Moi, je trouve que c'était une très bonne idée. Voilà. Je trouve que c'était une bonne idée parce que, d'abord, c'était utile dans la lutte contre le Covid. L'enjeu des jeunes dans la lutte contre dans cette pandémie est de plus en plus important parce que on sait maintenant qu'ils transmettent davantage qu'on ne le croyait et c'est sans doute eux qui respectent un peu moins les gestes barrières. C'est un succès. On était ce matin à un peu plus de 13 millions de vues de,
oui,
cette vidéo. Un journal télévisé d'une grande chaîne, c'est moins de 6 millions. Donc c'est très spectaculaire. Donc c'est un succès. Au pire, ça ne servira pas à grand chose. Au mieux, ça sera un des éléments pour lutter. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est intéressant en termes de stratégie de communication. C'est vrai pour le président de la République, mais c'est vrai pour l'ensemble des responsables politiques. On est dans un moment dans lequel l'intérêt pour la politique est extrêmement minoritaire, et il est extrêmement minoritaire, davantage encore, chez les jeunes. On est à un moment dans lequel...
Mais McFly et Carlito font de la politique, là.
Attendez, on est dans un moment dans lequel la consommation des médias est bouleversée. Le mode d'entrée dans l'information des jeunes ne sont plus les médias traditionnels. Bon, et donc dans ce moment-là, la question de savoir comment un responsable politique devient lui-même un média, elle est posée à tous.
Oui.
C'est ce que Donald Trump a fait avec son compte Twitter, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon essaye de faire également. C'est ce que Emmanuel Macron, président de la République, fait évidemment. Il a 6 millions d'abonnés sur son compte Twitter. Il a lancé un compte TikTok, donc là, qui est une autre sociologie.
C'est ce qu'a fait Barack Obama dès 2008.
C'est ce que fait Barack Obama. Mais savoir comment, au-delà, lorsqu'on n'est pas soi-même son média, comment trouver de nouveaux médias, c'est évidemment ce à quoi il faut aussi réfléchir. Alors là aussi, Emmanuel Macron l'a fait lorsqu'il a donné une interview à Brut il y a quelques temps, ou à Combini, et il le fait...
C'était différent, c'était sur les violences policières avec un ton beaucoup plus grave.
Et il le fait d'une certaine manière avec les influenceurs, avec McFly et Carlito, 6,5 millions d'abonnés sur leur compte YouTube. L'enjeu démocratique derrière, c'est de s'adresser à des gens auxquels on ne peut pas s'adresser autrement, notamment les jeunes. Et j'ajoute que dans une campagne présidentielle de 2022, dont on ne sait pas si elle ne sera pas beaucoup plus qu'avant une campagne numérique, c'est un enjeu qui est particulièrement important. Donc, a priori positif là-dessus, après quand même je termine par là, des limites, des prudences. Prudence qui est, il faut éviter quand on fait ça, une désarticulation de son discours, c'est-à-dire à chaque cible on tient un discours différent, il faut garder de la cohérence. Il faut éviter évidemment que la politique devienne un gadget, et il faut qu'il y ait un équilibre dans la désintermédiation. On a besoin, évidemment, c'est pas ici que je dirais le contraire, des médias traditionnels. J'ajoute un tout dernier mot. Le risque maintenant pour Emmanuel Macron, maintenant que le pari a été gagné, il va y avoir ce concours d'anecdotes.
Oui.
Un concours d'anecdotes, je ne sais pas si tous les auditeurs ont déjà vu un concours d'anecdotes de McFly et Carlito, ça consiste à raconter une anecdote et après l'autre doit dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et là, il y a un danger pour Emmanuel Macron. Le danger, c'est d'être pris en flagrant délit de mensonge, de montrer qu'il est capable de très bien mentir, et donc ça, il faut qu'il fasse très attention.
Parce que pour gagner, il faut être capable de très bien mentir, justement, Natacha Polony.
Oui, je serais un tout petit peu moins enthousiaste que Gilles face à ce phénomène. Non, mais cela dit, je suis pas non plus vent debout en trouvant que c'est un scandale, et je ne pense pas du tout que ce soit une désacralisation de la fonction présidentielle, puisque je pense que la communication s'est introduite en politique depuis déjà longtemps, et quand François Mitterrand se faisait interviewer par Yves Mourouzi, la fesse sur le bureau, et expliquait qu'on ne disait plus Chébran mais Bléca, c'était à peu près du même ordre. Donc je pense pas que ce soit véritablement cela le sujet. Premier point, je m'interroge, est-ce que les gens qui ont vu cette vidéo ont en quelque sorte intégrer le moins du monde, le message censé être délivré. C'est-à-dire, est-ce que réellement ça fait progresser la pratique d'une prudence bienvenue face au coronavirus ou pas ? J'ai un énorme doute. C'est-à-dire que je pense que, pour le coup, c'est peut-être prendre les jeunes pour des imbéciles que de croire que c'est parce que McFly et Carlito le leur disent qu'ils vont tout à coup trouver ça génial. Je suis perplexe face à cela. De même d'ailleurs que je suis
perplexe. Ça marche sur Gilles, hein, qui reste un éternel jeune homme et qui a l'air d'être totalement convaincu. Non mais ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de stratégie de communication et la manière dont le président s'adresse aux Français sur la question de la stratégie de lutte contre le Covid. Il a commencé en chef de guerre, un an après, quasiment jour pour jour,
oui,
on en est à la vidéo avec McFly et Carlito. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer plus tôt par cette communication empathique, inclusive, s'adressant à tout le monde et notamment aux plus jeunes ?
Disons que j'ai dans l'idée qu'un juste milieu eût été déjà pas mal et salvateur. Mais je voulais ajouter une chose. Je pense que ceux qui s'indignent en expliquant que c'est un scandale parce que, ce faisant, Emmanuel Macron a instrumentalisé McFly et Carlito pour travailler sa réélection, me semble là aussi prendre un petit peu les jeunes gens pour des crétins. Parce que il me semble que beaucoup de jeunes gens de 18-20 ans aujourd'hui sont parfaitement capables de se méfier de ce genre d'instrumentalisation, et que justement je ne crois pas du tout que ça marche d'un point de vue électoral. Le problème n'est pas là, le problème est en effet de savoir comment on fait pour recréer du débat politique, de l'échange entre des générations, quand il n'y a plus des médias, j'allais dire, qui forment cette communauté et qui parlent à tout le monde. Oui. La question est celle de la fragmentation. Et le risque de s'adresser à des youtubeurs pour parler aux jeunes, en effet, Gilles l'a esquissé, il a dit que ce serait dommage de tenir un discours différent. Or, c'est bien le risque. Tenir un discours différent suivant les publics, ne plus s'adresser à eux à travers leurs raisons, mais en essayant de les draguer, en leur donnant les codes qui sont les leurs, je pense que ce n'est pas tout à fait une élévation ni des jeunes, ni de qui que ce soit dans la population. Donc je pense qu'il va falloir repenser la communication politique pour trouver ce juste milieu dont je parlais.
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
À mon avis, on devrait être désespéré de voir le décrochage entre les pouvoirs, les institutions, le Parlement, le gouvernement et la base des citoyens du pays, qui ne s'y reconnaissent pas, qui ne participent plus aux élections. Ça veut dire une crise démocratique assurée et garantie.
Mais la proportionnelle...
Et la proposition que je fais, elle est toute simple. Les Français sont égaux devant la représentation et ils seront tous représentés au Parlement, qu'ils soient des partis majoritaires ou des partis minoritaires.
François Bayrou, président du Modem, qui était l'invité de France Info ce jeudi et qui revenait, François Bayrou, sur cette demande maintes fois formulée d'introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives afin de mieux représenter les Français. Natacha Polony, une vieille demande, mais qui risque de ne pas aboutir?
Ça, quel risque de ne pas aboutir, ça, c'est une certitude dans la mesure où on voit bien le caractère de serpent de mer. Non, la question est passionnante. Pourquoi? Parce que, premier point, quels sont les arguments depuis des années autour de cette question de la proportionnelle? Il y a ceux qui disent, ce serait catastrophique, ça donnerait un poids au Rassemblement national beaucoup trop fort. Et là, on touche à la question démocratique. Ne faut-il pas, à un moment donné, assumer et prendre ce risque justement pour, j'allais dire, faire sortir du bois chacun? C'est-à-dire qu'une fois que un parti a des élus, il est bien obligé de mener une politique, de prendre des positions. Ça, c'est le premier point. Et donc, on voit en effet ce que ça donne. Et surtout, peut-on croire qu'on va contenir un parti en disant « il pose problème, donc il ne doit pas avoir de représentation » et priver ainsi de représentation à l'Assemblée, ou en tout cas diminuer la représentation à l'Assemblée de pans entiers de la population. Je pense que c'est dangereux. Deuxième point, pour autant, la proportionnelle ne réglerait pas tous les problèmes. Et le croire me semble c'est un aveuglement total dans la mesure où c'est oublier que c'est l'ensemble des institutions qui ont été petit à petit déstabilisées. Certes, il y aurait plus de représentation des différents courants politiques, mais ça ne permettrait pas un contre-pouvoir suffisant. En revanche, ça permettrait peut-être d'imposer un tout petit peu plus de compromis. Or, le compromis fait partie de la démocratie. Et la pratique qui m'a semblé extrêmement dangereuse de la part de La République En Marche et de la part du gouvernement depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, c'est de ne même pas étudier à l'Assemblée nationale les amendements présentés par l'opposition, même quand ils étaient totalement, intéressants, pas politiciens. C'est-à-dire que nous n'avons plus en France, l'avons-nous jamais eu vraiment, mais en tout cas là, ça devient extrêmement problématique, nous n'avons pas cette culture du compromis qui consiste à respecter les oppositions. Et je pense que nous allons vers des fractures, donc un peu de proportionnel, et il faudrait définir comment, serait un des éléments, mais ça ne peut pas suffire, il faut remettre à plat les institutions.
Gilles Finkelstein.
Oui, François Bayrou, je crois, a raison quand il dit qu'il faut s'alarmer de la crise de la démocratie représentative que nous connaissons et essayer de réfléchir aux moyens et de se poser la question de la représentation proportionnelle. Il faut sur ce sujet-là éviter le débat in abstracto. C'est-à-dire on reprend les mêmes arguments depuis des années, depuis des décennies, pour ou contre la représentation proportionnelle. En gros, si on est pour, on dit que la démocratie est fragilisée parce qu'il y a un manque de représentativité, on a un problème de justice, qu'avec le mode de scrutin actuel, il n'y a plus de coalition, c'est le pouvoir à un seul. Si on est contre la proportionnelle, on dit que la démocratie peut être fragilisée parce qu'il y a un risque d'instabilité, c'est un problème d'efficacité, et que ça oblige à des coalitions après les élections. Tout ça, ces arguments, on les a mille fois entendus, et donc je crois que la question qu'il faut se poser, c'est dans la situation de la France d'aujourd'hui, est-ce que ça peut être une bonne solution? Dans cette situation dans laquelle il y a à la fois un problème de mode de scrutin, c'est-à-dire de représentativité de l'Assemblée nationale, mais aussi de stabilité, puisqu'en réalité, contrairement à ce que l'on dit, la valse gouvernementale, c'est vrai des premiers ministres, c'est vrai davantage encore des ministres, est au moins aussi forte en France que dans les autres démocraties qui ont un régime parlementaire, et il y a au-delà, et centralement, un problème institutionnel. Alors on peut essayer de traiter ce problème de face, c'est-à-dire traiter la question institutionnelle. Et on peut se dire, on va le traiter de biais, c'est-à-dire avec la proportionnelle, on va résoudre ce problème-là en obligeant à des coalitions qui déplaceraient le centre d'équilibre du pouvoir
entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale plutôt que de le concentrer sur le président de la République. Ça serait un vrai risque. Ça serait un vrai risque parce que la coalition serait obligatoire dans un pays dans lequel le champ politique est extraordinairement éclaté et où toute coalition est extrêmement difficile. Et une fois qu'on s'engage là-dedans, le problème est que il n'y a plus de modalité de règlement du problème parce qu'une dissolution reproduit peu ou prou la même assemblée. Peut-être qu'il faut le faire, peut-être qu'il faut prendre ce risque dans la situation dans laquelle on est, mais il faut avoir conscience que c'est un risque. Est-ce qu'on a une certitude, comme l'a dit Natacha, que ça ne va pas se faire? Mon intuition est que Emmanuel Macron ne le souhaite pas, ça ne correspond ni à son tempérament personnel, ni, je dois dire, à son expérience présidentielle quand il regarde la manière dont, autour de nous, les Espagnols, les Italiens, les Allemands ont eu des difficultés à constituer leur propre gouvernement. La question, c'est est-ce qu'il va y être contraint? Et ça, on va le voir.
Un mot, vous vouliez réagir l'un et l'autre à la une du journal Libération aujourd'hui. Une une où l'on voit Marine Le Pen et le président de la République Emmanuel Macron. 2022, entre guillemets, j'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini. Entre colère et déception, les électeurs de gauche interrogés par Libé redoutent la finale annoncée par les sondages pour la présidentielle et ils appellent au réveil de leur camp. Pour beaucoup, pas question de revoter Macron, même face à Le Pen. Gilles, rapidement, avant d'accueillir Tania de Montaigne,
puis Natacha. Les électeurs de gauche redoutent la répétition de cet affrontement.
Je ne fais que lire la une de Libération.
Oui, 70% des Français ne souhaitent pas la répétition de cet affrontement. Donc il n'y a pas que les électeurs de gauche. Après, lorsque on a débattu il y a quelques semaines des différents sondages d'intention de vote qui montraient un resserrement très important des résultats du second tour en cas de répétition de ce duel par rapport aux résultats de 2017, eh bien, l'explication, elle venait de ce que l'on voit dans Libération d'aujourd'hui et dans ce que beaucoup d'auditeurs ont dû entendre et peut-être pensent eux-mêmes, c'est on ne nous y reprendra pas parce qu'il y a un sentiment, à tort ou à raison, de trahison, de déception, d'exaspération. Et donc c'est une question qui est posée, qui sera posée si elle est posée, et ce n'est pas encore le cas. Oui. Aux électeurs de gauche, c'est une question dans l'intervalle qui est posée aussi au président de la République, de savoir comment il fait pour éviter que cela se reproduise.
Natacha ?
Oui, ce qui m'effare surtout, ce sont en effet les réactions outragées face à cette une. Cette une relève d'une enquête journalistique qui a d'ailleurs déjà été faite par d'autres journaux, enfin tous les services politiques de toutes les rédactions de France réfléchissent à cette question-là et ont en effet observé qu'il y avait un basculement. Et donc il ne faudrait pas le dire. Il ne faudrait pas le dire parce que ça ferait le jeu de, encore une fois, ça fait 30 ans qu'on explique que quoi qu'on fasse, ça fait le jeu du Front National. Et là, l'idée, c'est de dire que on serait coupable de ce risque. Le fait même de constater qu'il y a des gens qui ont l'impression de n'avoir pas été pris en compte, c'est-à-dire toute la jambe gauche d'Emmanuel Macron, pour le dire simplement, tout cela, ça, il ne faudrait pas l'analyser. Je suis assez effarée de ce que ça révèle du rapport de certains à l'information et aux médias. Je pense qu'il faut regarder cela, en effet, lucidement, se souvenir que quand 70% des Français ne veulent pas que quelque chose arrive, a priori, il y a une raison, et cela signifie que, justement, il ne vaut mieux pas que ça arrive, un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, parce qu'en effet, cela voudrait dire que la France est toujours prise dans un blocage qui ne lui permet pas de trouver un débouché politique aux aspirations des citoyens.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Tania de Montaigne.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Et le débat ce samedi, la République au défi des différences et des identités, l'idéal universel, au risque de ce que Gilles Finkelstein a nommé un piège d'identité. Les identités où certains s'enferment, celles aussi auxquelles on est assigné. La question revient régulièrement dans l'espace public, elle déchaîne les passions. Comment porter l'idéal universaliste sans être aveugle aux différences? On a voulu reprendre ces questions avec une écrivaine et journaliste. Elle avait publié L'Assignation chez Grasset, sous-titre « Les Noirs n'existent pas ». Bonjour Tania de Montaigne.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. La question de l'assignation à identité, vous y avez beaucoup réfléchi, vous l'avez même éprouvé, on peut le dire, dans votre propre chair. Vous publiez un texte dans le prochain numéro de la revue Zadig sur les jeûne des cités. C'est une expression que vous n'aimez pas et vous allez nous dire pourquoi. Et vous signez une tribune dans le journal Libération d'aujourd'hui qui aborde cette thématique sous un autre biais. Futur candidat, lisez la Constitution, écrivez-vous Tania de Montaigne. C'est une manière de répondre au numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, qui était l'invité de Questions politiques dimanche dernier sur France Inter. Guillaume Pelletier qui proposait de réécrire la Constitution pour y affirmer que la France est une république laïque, ça y est déjà, mais aussi judéo-chrétienne. Qu'est-ce qui vous a fait bondir en écoutant ça, Tania de Montaigne?
En fait, plusieurs choses. La première, c'est que on est toujours dans... J'ai l'impression qu'on continue à faire des tours de stade et que ce genre d'affirmation comme ça, surtout qu'il y avait l'image, donc c'était intéressant de voir à quel point toute sa posture disait que là, il allait nous dire un truc qu'on n'avait quand même jamais entendu de notre vie et qui allait quand même tout péter. Et en fait, il était juste en train de faire ce qui se passe toujours quand il y a une campagne électorale ou quand elle démarre, en tout cas, c'est-à-dire revenir sur cet inconscient qui voudrait que... les gens qui ne sont pas catholiques, parce qu'en fait on comprend bien que sa dynamique elle est autour de cette question-là, c'est-à-dire on est quand même toujours en train de travailler avec un fantasme d'une pureté qui serait autour de la question d'être catholique et en sous-texte d'être blanc, et on est encore en train de nous dire, comme à chaque fois qu'on rentre dans une campagne électorale, que tous les gens qui ne seraient pas catholiques ou pas blancs, ou les deux, ça serait bien de prendre sa valise et de retourner dans un endroit, on ne sait pas lequel. Mais
oui, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Mais est-ce que ça vous a choqué de la même manière qu'il y a quelques années, certains revendiquaient particulièrement à droite l'idée d'inscrire la référence aux racines chrétiennes de l'Europe dans les textes fondateurs de l'Union ?
Oui, parce qu'en fait, ce qui est raconté à chaque fois, c'est quand même cette volonté de... En fait, moi, tout ce qui travaille avec cette idée de la pureté et cette idée qu'il y aura un tamis qui se ferait et qu'à partir de ce tamis, on pourrait reconstituer une nation ou là, dans le cas de l'Europe, une fédération qui serait un lieu où, comme tous les gens seraient semblables, eh bien, ils penseraient de la même façon et que tous ces problèmes auxquels on est confronté, c'est-à-dire la complexité d'être humain et d'être au monde, eh bien, cette complexité n'existe plus. Voilà. Et puis d'être au monde, parce que en fait, indépendamment d'être ensemble, le simple fait d'être au monde fait qu'on est traversé par des complexités et que cet idéal de pureté n'a jamais existé. Pour que nous soyons ici, il a bien fallu des croisements, sinon en fait, il se passe rien, ou alors il se passe des choses qu'on a un petit peu vues dans des endroits où les gens se mélangent pas du tout. Enfin, les gens qui ont vu Délivrance peut-être auront une idée de ce que ça donne. Donc on sait bien qu'en fait, la pureté, c'est un idéal fasciste et nazi, et que vouloir sans arrêt travailler avec ça, c'est ne pas vouloir travailler avec le réel.
Natacha Polony.
Oui, je pense que la question de la pureté mériterait d'être creusée parce que, en effet, de très nombreux courants, que ce soit des courants d'ailleurs politiques ou religieux, fricotent avec cette notion qui est extrêmement angoissante. Simplement, il me semble que, justement, le projet républicain dans ce qu'il a d'intéressant, c'est de dépasser cela. Je suis toujours frappée d'ailleurs qu'on parle toujours des racines chrétiennes de l'Europe ou de la France en oubliant les racines gréco-latines qui sont absolument essentielles. Mais ça n'existe pas, on les met jamais en avant. Or, pourtant, c'est quand même culturellement absolument essentiel, justement, dans le projet républicain. Et ce projet républicain, il est universaliste parce que, même si au départ, et c'est ça qu'on retrouve, que moi je lis dans toutes vos réflexions, Tania de Montaigne, c'est que ce projet républicain, même s'il n'est pas appliqué que de façon acceptable, en fait il porte en lui la lutte contre ce fantasme de pureté, parce qu'il permet le dépassement des identités. Tout le problème que l'on a, c'est la question de la confrontation entre cet idéal et un individualisme actuel qui a tendance à mettre en avant les identités et à inciter chacun. Vous dites dans votre livre, par exemple, qu'il y a ceux qui ont des origines. Et vous citez une jeune femme blanche qui dit « Ah, moi, je n'ai pas d'origine ». Ce qui est en effet flagrant, c'est que l'individualisme actuel incite à mettre en avant la différence, alors que la République incite à ne reconnaître que des individus dans leur identité qui est multiple et qui ne peut pas être figé.
D'ailleurs, Tania de Montaigne, oui, quand vous demandez à cette femme pourquoi elle n'a pas d'origine, elle vous répond « Bah, je suis blanche ».
Ben, c'est ça. Mais
j'ai interrompu Natacha, pardon, mais juste Natacha pour.
Non, mais je voulais juste voilà poser ma question. Comment on empêche l'espèce de d'identitarisme actuel lié à cet hyper individualisme? Comment on fait en sorte d'y répondre par ce projet républicain, sachant qu'il a ses défauts et que non, il n'est pas appliqué de façon correcte?
Oui, de Montagne.
En fait, je pense que déjà la réponse intéressante pour moi, elle est du côté. C'est pour ça que je disais lisez la Constitution. Et je pense qu'en fait la réponse, elle est du côté du droit. Le problème, en fait, c'est pas d'avoir un projet républicain qui serait défaillant. Le problème pour moi, pour l'instant, c'est-à-dire que j'attends de voir. Je pourrais m'accorder sur le fait qu'il est défaillant à partir du moment où déjà on en explorera tout ce qui est posé. Et en l'occurrence, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que on voit bien à quel point la question de la rupture d'égalité, elle est permanente et qu'elle n'est pas traitée. Donc, par exemple, sur la question de... on a constaté que les zones qui sont classées anciennement ZEP, aujourd'hui REP, eh bien, par exemple, un élève qui fait sa scolarité dans une zone REP, on sait qu'à la fin de sa scolarité, il aura un an de moins de scolarité en tout. Il y aura manqué un an par rapport à un enfant qui n'est pas en zone REP. Eh bien, pour moi, là, il y a un vrai sujet. Et en l'occurrence, ça doit être traité parce qu'il y a une rupture d'égalité. On ne peut pas bénéficier pleinement de ses droits. Et c'est ça qui devrait nous intéresser.
Gilles Finkelstein.
Oui, je voudrais revenir moi aussi sur cette tribune de Libération, non pas en revenant sur le début, c'est-à-dire ce que vous venez d'évoquer, la critique de la proposition de réécriture de Guillaume Pelletier, mais par la fin, qui est la défense de cet article premier, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Et vous dites « ce mot social semble pour l'instant m'intéresser que très peu celles et ceux qui se préparent à concourir pour les présidentielles ». Et pourtant, je me dis que c'est de ce mot-là dont nous aurions besoin. Mes deux questions sont très simples. La première question, c'est pourquoi, d'après vous, y a-t-il cet effacement du social dans le débat public? Est-ce que c'est un problème d'émetteurs, des responsables politiques, ou est-ce que c'est un problème de la société qui ne considère plus que c'est une priorité? Et deuxième question, s'il y avait un retour du social, ça serait sur quoi? Est-ce que c'est le problème aujourd'hui est le problème classique, mais récurrent, des inégalités de revenus? Ou est-ce que c'est aussi, et dans quelle mesure, des inégalités de conditions, l'égalité des possibles, l'égalité des chances.
Tania de Montagne.
Alors, je crois que... Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans le discours? Mais parce qu'en fait, par définition, le social n'est pas spectaculaire. Je ne peux pas produire de pièces de théâtre avec le social. Je ne peux pas vous apporter du jeune qui brûle des voitures en vous disant « c'est ça, notre problème est là, c'est les voitures et c'est les jeunes ». Je ne peux pas vous dire ça. La question intéressante et fondamentale du social, c'est que déjà, c'est une traversée. C'est-à-dire, si moi, je m'intéresse au social, ça veut dire que je vais m'intéresser à la santé. Donc, mais je vais pas m'y intéresser en disant « ah bah oui, je suis allée dans le 93, il y a des files de gens... et puis ils meurent, donc ils ont des trucs très spéciaux, les gens
du 93.
D'autres le font. Oui, mais
dans la fiction.
Pour moi, ça n'est pas traiter le social. Traiter le social, c'est regarder que, en fait, nous sommes face à des déserts médicaux. Si je veux traiter cette question-là du 93 et pourquoi les gens y meurent plus, je vais être obligée de m'interroger sur le fait que les comorbidités sont décelées extrêmement tardivement et que donc, en général, quand on est au courant qu'on a du diabète, il est déjà de type 2, par exemple. C'est qu'il y a un hôpital pour une densité énorme. Donc, par définition, on a un problème. Mais du coup, ce problème-là, si j'ai envie de le traiter réellement, je vais être obligée de m'intéresser aux déserts médicaux sur l'ensemble du territoire. Je ne peux pas considérer que le spectaculaire détour du 93, si je le regarde comme ça, je vais répondre à la question. Je n'y répondrai pas. Et c'est la même chose pour la question de l'éducation. Le social, c'est vraiment supporter qu'il y a une traversée, que c'est phréatique, donc on est obligé de le voir d'une façon horizontale et pas verticale, et que c'est le sujet de tous les ministères. Parce que, par exemple, sur la question de l'égalité des chances dont vous parlez, il y a aussi l'égalité devant la justice, il va y avoir l'égalité sur comment je me projette. Là, par exemple, moi, j'ai passé la semaine dernière, j'étais à Stein avec des élèves et on s'interrogeait sur comment on va remplir Parcoursup. Ben oui, parce que Parcoursup, en fait, ça nécessite que je motive mon choix. Oui. Et pour que je motive mon choix, il faut déjà que je sache quelle est ma place. Donc, en fait, notre trajet à nous, ça a été de nous dire, bah tiens, déjà, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'élèves qui ne savaient déjà pas ce qu'ils pouvaient faire. Quels sont les possibles? Et on a constaté que dans d'autres endroits, les élèves savent ce qu'ils peuvent faire. Donc déjà, pour moi, là, il y a aussi une rupture d'égalité. C'est pour ça que je pense que vraiment travailler la question du social pour ce qu'elle est,
C'est-à-dire pas dans une condescendance colonialiste qui consiste à aller voir trois noirs et les prendre sur les genoux et dire tu voudrais pas faire du slam. Voilà, bon bah ça n'est pas du social, hein, très clairement.
Non, en revanche, il y a un mot qui pourrait l'exprimer, c'est méritocratie, en tout cas, et qui permettrait de le traiter. C'est juste une des questions que vous abordez dans.
Pour moi, méritocratie, si c'est juste regarder quelqu'un, essayer de se dépatouiller et arriver au sommet après avoir sué sang et eau et dire bah vous voyez bien que c'est possible.
Il y a des gens bien dans les quartiers.
Bah voilà, ça n'est pas de la méritocratie. La méritocratie, c'est faire en sorte qu'une personne ait une connaissance de tout ce qui est possible, de tout ce qui est proposé, et qu'on soit certain que quand le choix sera fait de ce que du fait que je vais aller là ou là-bas, eh bien en fait j'ai tous les moyens de faire ce choix, et que ensuite on le voit bien, par exemple là dans ce qui nous intéresse aujourd'hui avec la question du Covid, c'est-à-dire les étudiants, et comment est-ce qu'on est avec des gens qui ne peuvent pas se nourrir, pas se loger, eh bien on voit bien que non, il n'y a pas d'égalité, et que en fait il y avait un petit miracle qui consistait à regarder des gens travailler pour faire des études, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'on attend des étudiants? Comment on veut former nos citoyens? C'est une vraie question fondamentale et sociale.
Natacha.
Alors justement, je voudrais prolonger sur cette question-là. Oui, comment on forme, c'est toute la question, parce que vous disiez à juste titre qu'il y a un problème d'égalité. Par exemple, le département du 93 est celui où il y a le plus de professeurs non remplacés, alors que c'est là justement que l'école devrait être la plus présente. Donc on peut analyser comme ça les facteurs qui sont des facteurs d'injustice. En revanche, il y a d'autres choses qui me semblent plus complexes. Par exemple, quand j'étais jeune professeur, on m'expliquait tu devrais leur faire étudier l'assommoir, c'est plus proche de leur réalité, parce qu'on était dans le 93. Que, en effet, c'était une période où, en gros, le modèle qu'on donnait à ces jeunes gens était la réussite par le foot ou le rap, éventuellement le stand-up, mais pas tellement plus. Et qu'il y a donc une question de modèle. Et derrière cela, pendant les 10 ans où j'ai été journaliste sur les questions d'éducation, j'entendais aussi ce discours, il faut modifier la façon dont on enseigne, parce que ces enfants dont les parents ne sont pas nés en France, en fait, ce n'est pas leur histoire, donc il faut leur apprendre autre chose. J'entendais, par exemple, il faut apprendre l'arabe davantage dans les banlieues parce que c'est leur culture. Je vois pas bien comment un enfant dont les parents sont maliens, sa culture, ce serait l'arabe. Voilà. Et tout ce discours-là me semble aller dans le sens de quelque chose d'extrêmement pervers. Or, nous constatons que l'école permet moins qu'il y a 40 ans, une ascension sociale pour les enfants de milieux défavorisés. Est-ce que les deux ne sont pas liés ?
Tania de Montagne.
Oui, mais pour moi, ça rejoint encore cette question de savoir si quand on regarde quelqu'un, on le regarde comme étant un égal, et donc un citoyen, ou si on le regarde avec la condescendance de la personne qui pense qu'elle fait une faveur à quelqu'un. Et en fait, je crois que c'est de ce renversement-là dont il est question. C'est-à-dire considérer qu'en fait, on ne va apprendre à quelqu'un que ce qu'on croit qui le définit déjà, c'est mépriser quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait l'histoire, là par exemple quand on s'interroge sur les programmes d'histoire et qu'est-ce qui manque, quels sont les silences en fait qu'on n'a pas, les choses qu'on ne raconte pas, eh bien moi je crois qu'en fait il ne faut pas raconter l'esclavage parce que ça fait plaisir aux Noirs et que ils se sentent bien à la fin, c'est qu'en fait c'est l'histoire de la France quoi. Et en fait tout pour moi est à l'aune de ça. Quand on est français, eh bien on est toutes ces choses qui nous traversent, qu'on soit au courant ou pas. La langue que nous parlons, elle est faite des silences et des mots qui ont été posés parce que notre histoire est ce qu'elle est. Et donc, on ne fait pas ses courses dans l'histoire. Mais ça vaut pour ce que vous racontez.
On ne fait pas ses courses dans l'histoire.
Non, mais ça marche aussi pour...
L'expression, elle est belle. Mais en même temps, Tania de Montaigne...
Marine Le Pen. Que Marine Le Pen, d'un coup, ait décidé que le Rassemblement National, c'est Londres et c'est pas Vichy, bah, c'est passé à côté du fait d'être français. Parce que l'histoire française, c'est qu'on est Londres et Vichy. C'est comme ça, quoi.
Et d'un certain nombre de fondateurs, d'ailleurs, de son parti.
Oui.
Gilles Finkelstein.
Oui, dans le papier que vous avez publié dans la revue Zadig, un des angles originaux est la critique de la création du ministère de la ville, avec cette idée que, ce faisant, les problèmes de logement, d'éducation, de santé ne seront plus transversaux. Quand on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un des problèmes d'égalité et l'égalité des possibles, est-ce que il n'y a pas malgré tout une question géographique dans ces problèmes d'inégalité, c'est-à-dire que ce soit dans les banlieues ou que ce soit d'ailleurs dans certaines zones rurales, des difficultés qui sont spécifiques. Et vous dites, le glissement qui s'opère donne l'illusion qu'il y a une géographie du social. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une géographie du social et qu'un ministère comme le ministère de la Ville peut traiter de manière transversale justement ces différentes questions ? Et est-ce que l'entrée par la géographie n'est pas le bon moyen de traiter des questions sans passer par la case identité ?
Tania de Montagne.
Moi, je pense pas, parce qu'en fait, la géographie, elle écrase justement la réalité de choses qui sont, vous le disiez, qui peuvent avoir lieu dans une zone rurale et qui peuvent avoir lieu dans une zone périphérique, une banlieue. Donc, je crois quand même que cette idée que la ville produirait en son sein des choses particulières, il faut quand même voir qu'en fait, dans une cité, le point commun de tous les gens qui y vivent, c'est qu'ils n'ont pas le moyen de vivre ailleurs. C'est ça, en fait, qui les réunit. Donc, ça va être aussi la question de la pauvreté, et surtout, d'ailleurs, et puis ça va être des questions de répartition, parce que le problème, c'est que, par exemple, on se retrouve, on parlait de la Seine-Saint-Denis, donc il y a 120 nationalités en Seine-Saint-Denis, et puis il y a d'autres endroits où il y en a une. Et puis, alors, moi, je me suis retrouvée dans une réunion où il y avait un maire qui était trop content de nous dire qu'il y en avait une chez lui, et puis, ah bah oui, il y en a d'autres quand on s'en va. Et je voyais bien qu'il se lavait les mains de l'idée qu'en fait, moi, ça m'inquiète quand on choisit un endroit dans lequel on va acheter tous les gens qui n'ont pas d'argent, et puis que ce sera leur travail de s'occuper de ça, pendant que moi, je serais très détendue avec ma seule nationalité. Je serais trop content, en fait, ce sera génial. Mais ça, pour moi, c'est déjà être dans l'illégalité. Le travail d'un représentant de l'État, quel qu'il soit, c'est justement d'attraper cette question du social et de ne pas s'en débarrasser. Et je trouve qu'on est trop gentil encore avec toutes ces communes qui sont gentiment en train de dire qu'elles peuvent pas avoir de logements sociaux sur leur territoire parce que tu comprends, j'ai pas la place et puis mes habitants ne sont pas totalement d'accord.
Mais alors dans ces cas-là, Tania de Montagne, parce que vous portez une démarche universaliste et que vous avez une attention au social, aux questions sociales qui ne devraient pas être laissées donc à des questions sectorielles, logement, santé, éducation, à part les uns des autres. Lorsque vous représentez, lorsque vous écrivez une pièce intitulée Noir, dont la captation sera diffusée dans quelques jours sur France 5, ce sera le 19 mars, vous racontez l'histoire de Claudette Colvin, militante afro-américaine oubliée, vous nous emmenez dans l'Alabama des années 50. Qu'est-ce que cette histoire-là d'une femme de la génération de Rosa Parks, pour le dire très rapidement, a à nous raconter 70 ans plus tard, ici, en France. Sachant que vous refusez justement les démarches, pour le dire très vite, racialistes ou identitaristes ou communautaristes.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, Claudette Colvin, elle fait un acte qui pose la question de la citoyenneté extrêmement fort. Le fait qu'elle elle ne cède pas sa place dans un bus, place qu'elle a payée, et qu'elle fasse cet acte et qu'elle le maintienne et qu'elle attaque la ville.
Oui.
Eh bien, en fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle va obliger les Américains à voir, c'est est-ce que, en tant qu'Américain, le fait qu'une citoyenne soit arrêtée pour ce qu'elle est, est-ce que ça, vous le cautionnez ? Si vous répondez oui à cette question, alors peut-être un jour vous-même vous serez arrêté et vous ne pourrez rien en dire, ou alors il va falloir s'interroger sur ce que c'est que la citoyenneté américaine. Et c'est exactement ce qui se produit, et quand 9 mois plus tard Rosa Parks va faire le même geste, justement Martin Luther King, son premier texte, ça n'est pas de dire une noire a été arrêtée dans un bus, non, c'est de dire une citoyenne américaine a été arrêtée. Et donc en fait cette question-là devient centrale, et c'est cette question-là je trouve que nous ne nous posons pas assez.
Et qui se passe à Montgomery et en l'occurrence dans l'Alabama, c'est vrai qu'on a oublié Claudette Colvin et que vous lui rendez justice là où on se souvient de Rosa Parks. Mais je reprends ma question, pourquoi cette histoire-là vous parle à vous, jeune Française, dans une République dont l'histoire est très différente de celle qui s'est jouée dans le sud des États-Unis à l'époque de l'apartheid ou de la ségrégation ?
Justement, elle me parle pour ça, c'est-à-dire elle me parle dans l'interrogation qu'elle fait au pays dans lequel elle s'inscrit. Et moi, je trouve que là, justement, il y a un petit numéro qui vient de nous être proposé sur la question des discriminations que, gentiment, le gouvernement met à notre disposition. Je suis allée regarder, j'ai vu qu'on pouvait signaler une discrimination dont on serait victime soi-même ou dont on serait témoin, et qu'on peut être une personne ou un groupe. Et moi, par exemple, sur la question de l'éducation, j'ai bien envie de mettre en place avec les élèves que je vais aller voir, de dire, nous, on va se faire notre petit dossier et on va dire à l'État que ça n'est pas recevable et que surtout, c'est illégal.
de ne pas me donner la possibilité de m'envisager comme n'importe quel autre élève qui ne serait pas classé REP. Et c'est la même chose sur j'ai bien envie qu'on fasse un petit dossier, pourquoi est-ce que si je suis sourde, je ne peux pas aller dans un certain nombre d'administrations parce qu'il n'y a pas d'interprète. Là aussi, c'est une rupture d'égalité. Et je pense qu'il y a plein de sujets comme ça dont nous devons nous saisir en tant que citoyens et de demander à l'État, donc à nous-mêmes, d'être dans la légalité. Je crois que notre sujet, il est exactement ici.
La légalité, tout simplement. Ouais. Il reste peu de temps. Natacha Polony, rapidement, puis Gilles Finkelstein.
Très rapidement, le discours que vous tenez là me semble celui, le plus émancipateur qui soit. Et je pense que l'idée républicaine est profondément émancipatrice parce qu'elle permet aux individus de ne jamais être réduits à leur supposée différence. Et je trouve, je le dis au passage, que votre livre « Les Noirs n'existent pas, l'assignation » est formidable et que tout le monde devrait le lire parce que vous débusquez le racisme partout où il est, et dans chaque petite phrase de la vie quotidienne, et justement d'un point de vue universaliste. Le problème, c'est que nous sommes face à un courant qui est en train de s'imposer, notamment auprès de beaucoup de jeunes, qui, lui, rejette l'universalisme comme étant, au contraire, une autre forme d'oppression dans la mesure où elle masquerait les identités. Ce courant est extrêmement fort, et quand vous aviez pris position contre le texte de Virginie Despentes sur le privilège blanc, vous l'aviez fait, j'allais dire courageusement, parce qu'en fait, ce n'est pas si facile de lutter contre ce courant qui est certes minoritaire, mais qui est en train de s'imposer par la culpabilisation. N'y a-t-il pas une question générationnelle qui va finir par devenir problématique ?
Moi, je pense pas. En fait, la question qui se pose, c'est que, en fait, on nous a présenté pendant très longtemps l'idée que la République, ce serait une chose qui concernerait des blancs catholiques et que donc on va pas du tout parler de la couleur des gens. On va tous dire que du coup, en sous-texte, on est tous blancs et catholiques. Donc, évidemment, face à ça, c'est mis en place quelque chose qui dirait bon bah puisque tu ne me reconnais pas dans ce que je peux avoir de différent, moi, je vais essayer de m'inventer un lieu qui me reconnaîtra dans la mesure où il y a une hypocrisie qui est que quand même je constate que parce que j'ai cette couleur-là ou qu'on pense que j'ai cette couleur-là, il y a des choses qui me sont interdites. Donc moi, je crois que le vrai sujet...
On appelle ça la condition noire, par exemple, sous la plume de Pape Ndiaye. Le nouveau directeur de la Cité de l'immigration.
Moi, j'appelle ça le racisme. Et en fait, je crois que mon travail avec les élèves en ce moment, c'est de dire, à chaque fois que nous constaterons qu'il y a un manquement, prenons-le pour ce qu'il est, interrogeons-le et assignons, pour le coup, les personnes qui pensent qu'ils pourraient me réduire à ce qu'ils croient que je suis. Et ça vaut pour n'importe quelle couleur. C'est-à-dire toute personne qui me dira « Toi, ton champ d'action, il est ici et c'est moi qui décide quelles sont les barrières. » Cette personne-là, c'est ce que disait Mandela, toute personne, qu'elle soit noire ou blanche, qui m'empêchera d'être libre, sera mon problème. Donc en l'occurrence, le travail est la chose à rappeler à tous ces jeunes gens qui ont une énergie et il faut utiliser cette énergie. Il y a une colère, il y a un sentiment d'injustice, oui, mais comme vous êtes citoyen, eh bien, faites votre boulot, quoi. Nous sommes en démocratie, donc saisissez-vous de tous les outils qui nous sont proposés.
Citoyen Finkelstein.
Oui, je voudrais prolonger la question de Natacha Polony. Le CIVIPOP a publié en début de semaine son baromètre sur la confiance. Il y a deux questions qui, je pense, méritent...
Rapidement, Gilles, parce qu'il reste
43% seulement des Français considèrent que nous sommes une nation unie en dépit de nos différences. Le reste pense que nous sommes un ensemble de communautés. Et 24% seulement des Français ont, eux, le sentiment d'appartenir à la communauté nationale. Vous qui refusez l'assignation, comment fait-on pour lutter contre cette situation dans laquelle seuls les musulmans peuvent parler des musulmans, les noirs des noirs, les femmes des femmes?
Justement, en étant totalement dans l'investissement de soi-même et en ayant conscience pleinement que c'est le mouvement en fait qui fait qu'on est vivant et pas l'inverse. Donc à chaque fois qu'on vous demandera de vous définir, méfiez-vous. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes par définition en train d'advenir. Donc je pense que ce mouvement-là est un mouvement qui vise en fait à ne pas permettre qu'on advienne. Et donc toute chose qui va permettre de bouger sera satisfaisante. Et je crois vraiment que le cadre, c'est-à-dire la loi, c'est un outil intéressant parce que c'est un outil qui a été élaboré par nous et pour nous.
Donc, oui, mais on peut vous répondre que ce sont des idéaux et qu'en l'occurrence, l'universalité portée par la loi, elle peut être vécue comme un mensonge.
Non mais en fait la loi c'est ni un mensonge ni ni un idéal, en fait c'est une chose concrète qui borne l'ensemble de du trajet que nous faisons chaque jour, et on le sait très bien si on est victime d'un contrôle d'identité qui est intempestif, on le sait très bien si on ne peut pas avoir accès à un certain nombre de choses. Donc non, la loi c'est une chose très concrète, donc c'est pour ça que il y a pas de d'irréalité là-dedans, et je pense que tout ce qui pourra faire en sorte qu'on accompagne ces constats sera intéressant. Donc ce numéro vert là qui nous est proposé,
ce numéro vert mis en place par le gouvernement,
voilà.
Vous n'en voulez pas en l'occurrence.
Moi je dis, vous nous proposez un numéro vert, tant pis pour vous quoi. Voilà, il est gratuit donc on va appeler quoi. Et vu qu'il y a le travail de la défenseuse des droits, c'est un travail qui est vraiment passionnant. Il y a vraiment des choses qui ont été mises en place. Et ben on y va quoi. On y va avec elle et on va faire en sorte que ça se sache que nous avons des attentes et que ces attentes là ne sont pas des anecdotes et que nous ne sommes pas dans une situation de nourrisson en train de vagir et de dire donnez-moi un biberon. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'être citoyen.
Des anecdotes. Finalement, c'est une bonne manière de conclure cette émission. Vous ne participerez pas donc au concours d'anecdotes avec McFly et Carlito.
Je sais pas, j'ai pas été invité, mais bon, ça peut venir.
Ça viendra, ça viendra. Ouais. Merci Tania de Montagne, en tout cas, d'avoir été l'invitée du Grand Face à Face. Je recommande la lecture de Zadig, et puis donc, je rappelle votre pièce Noire avec un N majuscule, qui sera donc diffusée le 19 mars sur France 5. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Katt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Ronan Mahé, à suivre sur Inter, le journal.